ne peuvent pas disparaître. C'est-à-dire que s'ils ne subissent pas de transformation nucléaire, on verra plus tard ce que ça veut dire, eh bien ils restent en l'état indéfiniment. Simplement, ils ont une genèse, ils ont une naissance, ils n'ont pas été là de tout temps. Et puis d'autre part, il y a d'autres atomes instables, comme on les appelle, qui au bout d'un certain temps changent de structure nucléaire, c'est-à-dire leur noyau va se modifier. C'est ce qu'on appelle la radioactivité. Donc la radioactivité, c'est le processus par lequel des atomes vont se transformer en d'autres atomes. Donc ce que je viens de dire là, c'est que l'atome de la physique moderne, c'est quelque chose de très différent de l'atome des anciens. C'est quelque chose qui est en fait très compliqué, qui ne ressemble pas du tout à la petite bille microscopique à laquelle on l'assimile trop souvent. C'est quelque chose qui n'obéit pas aux lois de la physique ordinaire, à la physique de tous les jours, si on peut dire, puisque les lois qui régissent le comportement des atomes sont ce que l'on appelle la physique quantique, et cette physique quantique n'est pas du tout... est très différente de la physique macroscopique que nous utilisons dans la vie courante. En particulier, pour comprendre pourquoi les atomes sont capables d'émettre de la lumière, il a fallu revoir de fond en comble les concepts par lesquels on représente le monde microscopique. Alors pour voir d'où sont nés tous ces atomes, d'où ils sont venus, il faut dire quelques mots de ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire le processus par lequel les atomes se sont formés au cours de l'histoire de l'univers. Alors pour cela, il faut remonter 15 milliards d'années plus tôt, c'est-à-dire à peu près au moment du Big Bang, pas exactement au moment du Big Bang, parce qu'au tout début, d'abord la physique est réticente à parler, parce qu'on n'a pas les concepts permettant d'appréhender l'origine même de l'univers, mais simplement on sait que 10 secondes après le Big Bang, l'univers avait une température d'à peu près 1 milliard de degrés, ce qui est énorme, mais ce qui est beaucoup moins que la température qu'il avait au tout début, parce qu'il y a eu un phénomène d'expansion qui a abaissé la température. Et à ce moment-là, on trouvait dans l'univers typiquement quatre types de particules. Il y avait d'abord le proton, dont on reparlera beaucoup, puisque le proton est une particule qui est constitutive du noyau atomique, c'est-à-dire qu'on trouve des protons dans tous les noyaux atomiques qui sont au cœur des atomes. Le proton a une charge électrique positive, hein, c'est-à-dire qu'il va subir une interaction électromagnétique, électrique, dont on parlera tout à l'heure également. Il y avait un deuxième type de particule qui ressemble beaucoup au proton et qu'on appelle le neutron, sauf que le neutron n'a pas de charge électrique comme son nom l'indique, il est neutre. Il y avait une particule qui est l'électron, qui elle est chargée électriquement de façon négative et qui est 2000 fois plus légère typiquement que le proton ou le neutron. C'est cette particule qui forme le nuage qui tourne, qui orbite autour des noyaux atomiques pour constituer l'atome. Et enfin, il y avait des photons, c'est-à-dire des particules de lumière qui interagissaient par le biais de collisions avec les trois autres types de particules. Alors, il faut donc imaginer une espèce de gaz dans lequel on trouve ces quatre particules qui ont des vitesses très rapides, qui s'entrechoquent régulièrement dans une sorte d'agitation frénétique. Et il arrivait que des protons rencontrent des neutrons et soient liés par une interaction très très forte, une sorte de glue, de colle très intense, qui les maintenait l'un avec l'autre et qu'on appelle l'interaction nucléaire forte. Nous y reviendrons, mais simplement... Lorsque la température de l'univers était supérieure au milliard de degrés, les photons avaient suffisamment d'énergie pour casser ces liaisons spontanées entre un proton et un neutron qui entraient en collision. Et donc ce qu'on appelle le noyau de deutérium, le noyau de deutérium qui est un isotope de l'hydrogène, l'hydrogène c'est le noyau constitué d'un seul proton, tout seul, isolé, alors que le deutérium c'est la même chose sauf qu'il y a un neutron en plus. Donc le deutérium est un isotope de l'hydrogène au sens où il a le même nombre de protons qui caractérise son élément chimique, mais en plus il a un neutron qui vient le rendre plus massif. Eh bien, avant cette dixième seconde après le Big Bang, la température était tellement élevée que les photons cassaient ces liaisons, de sorte que les noyaux de deutérium ne pouvaient pas se former. Et puis après 10 secondes, quand la température est devenue un peu plus basse, les photons n'avaient plus assez d'énergie pour casser la liaison entre un proton et un neutron, de sorte que les premiers noyaux de deutérium ont pu se former. Et donc, ces noyaux étaient extrêmement solidement liés, puisque le proton et le neutron étaient très fortement collés l'un à l'autre. Il n'y avait plus de collision par les photons susceptibles de le casser, donc le deutérium était apparu et il était stable.